Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Il sont 11h, passé légèrement de quelques secondes. Et à vous qui êtes déjà en place pour écouter le club La Presse, nous disons bonne journée, bienvenue à cette émission. Que vous nous écoutiez sur Canal FM ou encore sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baganyamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio La Paix à Takpamé, Radio Lumière à Nero, et puis dans le monde entier, les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM, même la chaîne YouTube. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Émission réalisée aujourd'hui par Victor Gwekoku Michel Tomega, qui va être incessamment rejoint par un de ses collègues de la technique. Moi, je suis déjà bien entouré au studio ici par Uriel Kakpara et Niang de Méga Info paru aujourd'hui. Bonjour Uriel.
Bonjour, ça c'est Méga Info paraît pratiquement tous les lundis, comme vous le savez, pour fournir de la bonne information, la vraie, la professionnelle à tous les Togolais, à tous les lecteurs du monde entier. Bonjour. Merci. À tous les auditeurs et auditeurs.
Merci. Deuxième confrère déjà à nos côtés, Arim Yaou Tchanyao de Nouvelle Opinion. Bonjour.
Sas, je te salue. Je salue les auditrices et les auditeurs de Canal FM. Et je souhaite agréable semaine à tous les travailleurs par-dessus le monde entier.
Merci. Je rappelle que nous sommes dans l'avant-dernière semaine avant la Noël, soit la fête populaire ou la fête de la nativité pour le monde chrétien, fête sur laquelle se concentre déjà doublement, triplement ou pour ne pas dire quadruplement Didier Kwamia Sogba. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour aux amis en studio.
Tu prépares déjà la fête de la nativité ou bien la Noël en tant que toi-même, mais en même temps en tant que papa de deux adorables filles, et puis également en tant que chef d'entreprise, ceux qui travaillent avec toi à Togo Breaking News, ils ont droit à leur cadeau de fin d'année, et surtout comme évangéliste ou pasteur, Didier.
Oui, tu me connais bien, donc tu connais bien ma vie jusqu'à la maison, puisque nous on n'a rien à cacher, donc du coup, oui justement on prépare ces événements, vous savez que cette période, si les parents pense à tout cela. Pour les filles, on a commencé déjà. On a décidé de commencer très tôt pour ne pas être surpris ou pour ne pas avoir. Mais pour les filles, il faut commencer très tôt et surtout les rassurer. Surtout que c'est les filles. Et justement, et donc on essaie d'y travailler déjà en tant que chef d'entreprise également. Oui, on essaye de penser à ça, même si on ne le dit pas aux collaborateurs, on pense à ça et la surprise tombera au bon moment, non seulement les périodes de fête, mais il faut également leur payer leur salaire de ce mois de décembre, donc on va devoir payer plutôt que prévu, plus les accompagnements qu'il faut donc pour la fête, donc on prépare tout ça. Et donc oui, en tant qu'homme de Dieu, de l'autre côté également, il faut également veiller à ce que des enfants à l'église ou ailleurs, des enfants de rue et tout, on pense également à eux. On a toujours accompagné la plupart d'entre ces enfants selon le minimum que nous avons. Et donc, on essaye de faire. On continuera de faire. On faisait de façon anonyme. Des fois, on fait de façon un peu médiatisée. Mais on continue quand même de faire cela.
La Noël et après le Nouvel An, c'est des occasions de fête, de partage, de convivialité. De quoi débattons-nous aujourd'hui? Quels sont les gestes et comportements que nous devrions adopter sur les routes en cette période justement de fête? Il y a la direction des transports routiers et ferroviaires qui a démarré une sensibilisation que nous allons relayer. Nous allons abondamment revenir sur la 64e conférence au sommet des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO avec notre sous-région ouest-africaine qui fait face à plusieurs enjeux, aussi bien politiques avec les changements militaires qu'il y a eu à la tête de quatre pays de la sous-région. Il y a les défis sécuritaires, il y a la crise économique, il y a des pays également de la sous-région qui se préparent aux élections. Nous, au Togo, pour les régionales et les législatives, le Sénégal pour la présidentielle en février 2024. et puis la coopération du Togo sur deux fronts. Le Togo qui est à la COP 28, la COP qui clôt ses travaux. Quelles sont les ambitions que le Togo est allé défendre là-bas? Et nous allons en parler, tout comme la coopération du Togo avec le Fonds monétaire international, dont une mission vient de séjourner dans notre pays avec des promesses d'engagement. Mais avant cela, la pensée du jour, nous la tirons, en fait, nous prenons pour la pensée du jour le thème autour duquel la 75e, le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été lancé hier, parce que les commémorations continuent. Eh bien, le thème est intitulé « Liberté, égalité et justice pour tous ». Encore une fois, « Liberté, égalité et justice pour tous ». C'est autour de ce thème que la Déclaration universelle des droits de l'homme se commémore pour la 75e fois. Et un rapide tour de table, vous aurez chacun une minute pour votre perception des droits de l'homme ici au Togo, en Afrique et dans le monde entier en cette année 2023. Uriel.
C'est vrai, je n'ai pas pensé à ce sujet. Liberté, égalité, justice pour tous, ça ressemble un peu au slogan de France 24, liberté, égalité, actualité. Je ne sais pas s'il y a une compatibilité ou pas. Je n'ai pas vraiment pensé à ce sujet, mais par rapport à la notion ou au sujet des droits de l'homme dans le monde, en commençant par le Togo, c'est une situation dont on parle tous les jours et on souhaiterait que les droits de l'homme s'améliorent, que chaque homme, chaque femme dans le monde bénéficie pleinement de ses droits. Et ici, je pense que ce sujet pourrait prendre tout le temps de cette émission. On n'en finirait pas parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mm-hmm. Les droits de l'homme, ça s'est amélioré à mon avis parce que hier, ce qui était contrainte sur l'être humain, ce qui était contrainte au Togo par exemple, aujourd'hui est devenu liberté. Ce qui favorise la liberté dans le travail et accroît également l'épanouissement de l'être humain. Bon, aujourd'hui, il faut saluer quand même les efforts déjà fournis parce que personne ne pourra se permettre encore de sortir dans la rue, attraper qui il veut, commencer par le fesser comme il veut. Personne ne pourra se permettre de refuser qu'on fouille un titan qui transporte les troncs d'arbres pour envoyer des éléments fessés, ceux qui sont dans leur mission. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Personne ne peut se permettre aussi de prendre son pistolet, sortir, tirer sur qui il veut comme on le constatait auparavant, ce n'est plus le cas. Donc, pour dire quand même que ça s'est amélioré et vous allez voir que les droits de l'homme vont au-delà parce que le contexte a beaucoup changé. On pense que quand on parle droits de l'homme, l'homme avec grand H, il faut aussi inclure la protection de la femme qui est considérée comme le genre le plus faible entre les deux, faible physiquement, bien sûr, pas faible intellectuellement et psychologiquement. Donc, ça, beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever. Beaucoup de défis restent à relever. Et quand on parle droit de l'homme, il faut aussi inclure les injustices. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, une société, une structure publique, une société publique ou un service public puisse privilégier ethniquement le personnel de chez lui au détriment des autres. Ça veut dire que c'est une façon de piétiner aussi les droits de l'homme. Une ressource humaine de Couvé peut aller travailler à Dapon s'il est avéré que ses compétences lui permettent d'aller travailler. Mais si on lui refuse et on prend quelqu'un de Dapon parce qu'il est à Dapon, je pense qu'on a piétiné le droit de celui qui normalement a ce droit-là pour aller
travailler. Merci Kakbala Uriel. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée solennellement le 10 décembre 1948. Au début, c'était 58 États signataires, mais aujourd'hui, cette déclaration est une entité, est une évidence dans le monde entier. Ces 30 articles sont incorporés dans tous les traités internationaux, même dans la constitution de nombre de pays, dont chez nous ici au Togo. Et Harry Miaou, ces droits de l'homme touchent le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aux activités politiques, le droit également aux loisirs, le droit au bonheur en sorte. Et nous diffusons cela, mais ces droits restent toujours sujets à des enjeux au quotidien.
Oui, il faut le dire, vous l'avez dit, Iriel également l'a dit. La question des droits de l'homme, c'est une question multidimensionnelle. Le domaine est très vaste. Iriel a dit que si nous voulons en débattre, on peut passer toute la journée. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, il y en a à dire. Mais revenons au Togo, je trouve, et je dis comme Iriel, qu'il y a des efforts qui se font et dans tous ces domaines qui concernent le droit de l'homme, le droit des enfants, le droit de la femme, le droit au travail, le droit, tout. Il y a beaucoup de domaines où le droit de l'homme intervient, mais malgré les efforts, il faut avoir le courage de dire qu'il reste beaucoup de choses. Les populations togolaises, dans tous les domaines, dans tous les villages, dans les régions, un peu partout, il y a des attentes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore imbus de certaines autorités qui peuvent piétiner d'autres. Ça se fait parce que si je me retrouve devant une situation avec quelqu'un, il y a toujours ces conflits de clans, ces conflits de classes, ces conflits d'autorité où les gens abusent sur d'autres. Et donc, ça se vit dans notre pays. Il a touché un domaine, il a parlé du travail. Il reste beaucoup de choses à faire. Je vous assure que la question du travail est problématique au Togo. Il n'y a pas que les services publics, mais dans tous les autres domaines, on fait des affaires pour recruter des gens, il faut le dire. Il y a des gens qui se font recruter, même s'il y a des concours par endroit, dans certaines sociétés para-étatiques, dans certaines sociétés du privé, il y a des affaires, puisque régulièrement, nous-mêmes, les gens nous abordent en disant « On me dit, c'est Améria, je veux faire ici. Est-ce que tu connais personne ?» Ça veut dire que si les gens continuent par aborder, d'ailleurs, je crois que ce soit ça, Djakouti qui vient d'arriver, bienvenue Djakouti, et Didier, à tous ceux qui sont ici, des gens nous approchent tout le temps pour nous solliciter pour certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un problème qui concerne ces clans, ces classes dans notre pays. Mais je voudrais enfin dire que malgré les efforts et tout ce que nous avons dit, il y a ce côté de sensibilisation où on interpelle tous les jours les consciences et les gens sont en train de comprendre qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle droit de l'homme au niveau de la justice, au niveau, que ce soit au commissariat, à la gendarmerie, un effort se fait. Mais il y a un point qui m'a touché, parce que pour moi, c'est également une brimade au niveau des droits de l'homme. Samedi, autour de 23h, dans mon quartier, j'ai vu de moi-même, mes propres yeux, je ne donne pas de quelle commune il est question, des agents de la commune se promener et percevoir des taxes. Et j'ai eu le courage.
Ça veut dire à quelle heure?
À 23h avant vers minuit. Ils étaient avec la police, avec un véhicule sur lequel c'est écrit recouvrement. Et gentiment, j'ai abordé les gens en disant que vous, c'est de la mairie. Ils me disent oui. Vous faites quoi avec ces pauvres dames qui vendent à Kassa, qui vendent comme, qui se débrouillent? Ils me disent qu'ils sont en train de percevoir les taxes. J'ai dit, mais mon vieux, dans quel pays nous sommes? Vous allez percevoir les taxes jusqu'à minuit? Ils m'ont répondu oui. Comme les gens aussi sont là la nuit, eux aussi sont là. Et j'ai trouvé ça aberrant. J'ai dit que cet argent ne vous servira à rien. J'approche les femmes, je vois qu'effectivement, les femmes ont pris des tickets, 500, y compris celles qui vendaient même arachides au bord de la route. J'ai dit que cette façon, pour moi, ce sont des brimades. Il faut que les mairies commencent par arrêter, sinon on viendra réveiller les Togolais. Donc, à 3h du matin,
pour leur dire de payer. Je veux constater, c'est que il y a une commune qui va percevoir des taxes auprès des bonnes femmes.
Alors, autour de minuit.
Le samedi à 23h.
Oui.
C'est dans ton quartier.
Je ne le donne pas, oui, vous comprenez. Vous savez où j'habite. Ne dites pas.
Je dis.
Ils n'ont qu'à changer. C'est pas normal.
C'est la commune Golfe 5.
Oui, absolument.
Maintenant, Didier.
C'est méchant.
La déclaration universelle de l'homme. J'ai dit, c'est un document qui a été adopté depuis 1948. Aujourd'hui, j'apprends que cette déclaration est traduite dans plus de 500 langues dans le monde entier. Je disais également que les 30 articles de la déclaration sont incorporés dans pratiquement tous les traités internationaux, même dans nombre de constitutions, dont chez nous aussi. C'est pour dire que c'est un document que nous connaissons, que nous enseignons, mais que nous avons toujours un certain mal à appliquer, que nous soyons des États, que nous soyons des individus, que nous soyons des sociétés publiques ou privées, des groupes organisés ou bien seuls.
Oui, tu as bien fait de planter le décor dans ce sens-là, parce que les hommes sont trop hypocrites. Les hommes sont trop hypocrites. Et je pense que c'est le problème que nous avons dans le monde entier. Dans tous les pays au monde, les hommes sont trop hypocrites. Vous savez, l'homme ne voudrait pas que quand il est dans une situation comme ça, il a parlé tout à l'heure de brimade. Personne n'aimerait être brimé de cette façon-là. Mais parce que certains sont imbus d'autorité, ils ont une certaine position dans la société et ils s'assurent d'une certaine, des fois, impunité, des fois, certaines fois, d'une protection, ils font aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Donc, du coup, c'est ce qui fait que on a beau dire Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles sont connus de tous. Tous les hommes naissent égaux et tout liberté, ça, en droit, en dignité, ouais. En tout ce que... Ouais. Mais est-ce que, de façon honnête, si nous parlons de chez nous ici, déjà dans notre pays, est-ce que nous sommes tous vraiment égaux?
Non.
La réponse est clairement non. Ni devant la justice, ni devant les richesses de la nation, ni devant, il a parlé de l'emploi tout à l'heure, ni devant l'emploi, ni dans les concours organisés, ni devant, on n'est jamais égaux là. Si on prenait seulement égalité, est-ce que vraiment tous les Togolais sont égaux? Non. Donc on ne va pas multiplier les exemples. C'est pour vous dire que les hommes sont hypocrites. Si on avait vraiment voulu qu'on soit égaux, même si on ne l'est pas, en totalité, on tendrait vers l'égalité pour tous. Mais certains, ils sont contents quand ils voient d'autres comme ça en train de souffrir. Tu parlais tout à l'heure de fins de fin d'année, mais combien n'ont pas de building, n'habitent pas dans des buildings, que sous leur building, des enfants, ils sont dans la boue, ne trouveront même pas à manger le jour de Noël, par exemple, et qui seraient très contents d'avoir envoyé leurs enfants quelque part, ou d'avoir amené leurs enfants dans les grands supermarchés de Lomé, alors que tout à côté d'eux, des enfants cherchent peut-être un bol de riz là, qu'on va en vrac là, à 300 ou à 500 pour manger le jour de Noël, ils ne trouvent pas. Donc du coup, je pense véritablement que si nous voulons véritablement appliquer les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui, ces dispositions-là incorporées à notre constitution et aux constitutions de bon nombre de pays, il va falloir véritablement qu'on cesse d'être des hypocrites, qu'on essaye de considérer l'autre comme autrui comme moi-même. Si je considère autrui comme moi-même, je ne ferai pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse.
Merci Jacques Laya Djakouti qui nous a rejoint en temps. Bonjour Jacques.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. Je voudrais un peu revenir sur ce que disait à l'instant Arim Yao.
Oui.
Vous savez, ce n'est pas seulement dans ta commune, hein, Arim.
Les c'est communes partout. Qui vont percevoir non, les taxes au fin fond de la nuit, même oui, le samedi à 23h.
Je vous dis, il y a une bonne femme, une revendeuse de com. Oh. Vous savez que la plupart, pour vous qui circulez la nuit, rentrez tard à la maison, vous allez comprendre ce que j'ai dit.
Donc tu es exclu.
Mais il sait quand même.
Donc, on était là pour acheter effectivement du com. Mais à un moment, ils sont arrivés. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dame dit non, qu'ils sont venus pour percevoir les taxes. Mais tout le monde était étonné. On s'est dit finalement, nous qui étions là, on s'est dit, bon, on va cotiser pour payer pour la femme. Parce que ce n'est pas la peine. À cette heure-là, venir percevoir. Et puis on s'est dit, mais les taxes vont aller où? Dans quelle caisse? À 23h. Ces taxes-là vont aller où, ça? Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les mairies.
Mais la celle-là, c'est dans ton quartier aussi?
C'est un ancien quartier.
Tu connais le quartier? Comme tu habites actuellement la commune Golfe 7, c'est pour.
Non, c'est un ancien quartier. Donc,
mais de nommer quand même.
Bien sûr. Okay. Donc. C'est pour vous dire que quelque part, il faudrait. Je ne savais pas que Arim Yao allait soulever cet aspect. Moi-même, j'avais ça à cœur de pouvoir le dire par rapport à un vu et constaté. Il faut effectivement revoir cet aspect-là. Et l'autre vu et constaté, c'est au niveau de nos amis de Togocom. Il y a un sérieux problème qui se passe actuellement. Vous savez, ça, on vous envoie de l'argent. Vous n'avez même pas eu le temps d'aller dans une pièce pour retirer l'argent. Arrivé, quelqu'un a déjà retiré l'argent à votre place.
Ah bon?
Oui.
On te fait un transfert.
Je vous dis.
Tu n'as pas encore le temps de retirer l'argent dans ton kiosque et quelqu'un d'autre
retire l'argent dans ton compte. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que Togo.com puisse revoir également cet aspect-là. Parce que les gens se posent des questions. Est-ce qu'il y a des gens au niveau de Togo.com là-bas qui font ça ou bien comment? Parce que quand vous suivez un peu le parcours, vous sentez que c'est comme si c'est des gens qui sont là-bas. Ce n'est pas des hommes, des gens ordinaires qui puissent retirer l'argent dans les comptes des gens. Donc je crois qu'il faudrait que ce système également soit revu au niveau de Togo.com. Il faut un bon travail parce que moi personnellement, la semaine passée, je me suis trompé d'envoi d'un numéro. Mais quand j'ai appelé, ils m'ont retourné l'argent. Moi, mais les gens se plaignent. Il faudrait qu'ils puissent revoir effectivement ce service. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Parce que en cette fin d'année-là, il faut vraiment revoir certaines choses.
Oui, les arnaqueurs, justement. Les escrocs, ils redoublent d'ingéniosité et d'activité en cette période. Mais ce que Jacques dit là, si c'est avéré, cela nous interpelle tous. Mais les opérateurs de téléphonie, Togo.com, et Move Africa Togo, et puis l'État togolais lui-même. Parce que vous vous rappelez, il y a quelques temps, l'État nous avait enjoint d'aller nous faire identifier.
Justement.
Et que si quelqu'un ne se faisait pas identifier pour ces numéros-là seraient désactivés. Alors, nous sommes tous fait identifier, mais il y a toujours de ces numéros-là qui vous appellent pour vous embêter, pour vous escroquer, pour vous arnaquer. Et quand vous cherchez, quand vous appelez, aussi bien Togo.com que Move Africa se déclare impuissant. Quand vous allez à la police est également police et gendarmerie impuissante. Même l'ANC, l'Agence nationale contre la cybercriminalité, quand vous les contactez, ils n'ont pas tous les outils de vous faire rentrer dans vos droits. À une rencontre qu'elle a tenue avec les médias jeudi dernier, l'OMCEA, l'organisme de mise en œuvre du MCC Seuil, hein, la question a été posée et là qu'ils ont répondu que des études se font, mais Uriel, cette affaire-là reste une menace permanente sur notre vie de tous les jours. On te fait un transfert et entre-temps, quelqu'un d'autre va déjà retirer ton argent.
Non, bon, moi je considère que c'est une alerte que Jacques Diakouté a lancée. Et connaissant Togo.com, je pense que si c'est avéré, ils prendront les dispositions nécessaires pour trouver des solutions. Parce que c'est une structure quand même qui fournit assez d'efforts. Et je pense qu'ils ne baisseront pas les bras. Ils vont trouver incessamment des solutions. Je voudrais revenir sur la question des communes, la collecte des taxes très tard dans la nuit. Bon, nous irons aux informations pour voir si c'est légal ou illégal. Parce que je me dis, si la police a reçu l'ordre d'accompagner les collecteurs très tard dans la nuit, là il va falloir qu'on se renseigne pour voir si c'est légal ou illégal. La police ne peut pas quand même se mettre derrière ces gens-là si le service est illégal. Par contre, il y a une commune que je salue ici, c'est la commune Agonivé 2, connue sous le nom de Legbasito. Et qui fournit également assez d'efforts et eux autres sympas à leur niveau sympas la collecte des taxes tard dans la nuit, mais c'est la levée de fonds pour l'achat d'un gradaire. Donc tout le monde, tous les habitants de Legbasito, voyez-vous, et c'est, ça a été établi d'une façon professionnelle. Là c'est une stratégie pour le développement de la commune. Je ne sais pas si là-bas aussi on collecte tard à l'Ebassimé qu'on sort. Je n'ai pas encore vu quand même, mais il faudrait qu'on aille à l'information pour se rassurer que c'est illégal avant de continuer. Au niveau de la commune Golf 5, c'est pourquoi je voulais attirer l'attention du maire Aboka, c'est l'établissement des actes de naissance. Franchement, ça ne marche pas. On vous dit, revenez dans 3 semaines, 1 mois, vous revenez, on vous dit, allez-y, on vous appellera, vous allez revenir. Mais franchement, c'est la croix et la bannière.
Est-ce que tu aurais... par hasard, faire un enfant dans la commune.
Tous mes enfants sont nés à Flau Gatli. Dans Flau Gatli, donc c'est
un peu. Eh bien, pour clôturer avec les droits de l'homme, c'est un document très important, adopté, hein, je le rappelle, il y a déjà 75 ans. Hein, le Togo l'a incorporé dans notre arsenal juridique. Rappelons-nous, le Togo a créé sa Commission nationale des droits de l'homme depuis octobre 1984. Le Togo a depuis un ministère entier
dédiée au respect des droits de l'homme. Ces droits de l'homme que nous chantons, que nous apprenons, hein, mais il y a toujours des défis à relever. Je rappelle que les droits de l'homme, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit de vivre dans un pays qui vous protège, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé,
à l'eau potable,
le droit également de pratiquer sa religion comme on l'entend, hein, et pas plus tard que ce week-end, le monde chrétien catholique était au sanctuaire marial de Corvier. Et en fin de semaine, d'autres organisations vont se retrouver pour la célébration de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Les musulmans qui font leur grande prière tous les vendredis. Alors, au-delà de tout ça, là, comment est-ce que nous pratiquons et faisons respecter les droits à la religion, les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, les droits même de quatrième génération, le droit au plaisir, comment est-ce que nous faisons un effort, hein, la question reste posée, mais continuons avec le droit à la vie. La vie est sacrée et si Dieu nous donne la vie et que l'État nous la protège, nous-mêmes devons protéger notre vie, notamment quand nous sommes dans la circulation, notamment en cette période de fin d'année. À ce sujet, le confrère Nouvelle Opinion nous parle de cette activité de la direction des transports routiers et ferroviaires qui sensibilise sur les conducteurs, qui sensibilise les conducteurs sur les bonnes manières. Et l'une des manières à laquelle nous appelle la DTRF, c'est d'éviter tout ce qui est distraction quand nous sommes au volant, quand nous sommes au guidon. Jacques, tu es témoin de ces conducteurs-là qui sont au volant, mais qui téléphonent. D'autres même font WhatsApp, ou bien carrément, ils discutent avec les autres passagers à bord du véhicule. Et plus grave encore, c'est ceux qui téléphonent au guidon de leur moto dans la circulation, dans les rues du Togo. Jacques.
Oui, et puis vous savez, la mode actuellement, c'est quoi? Ils prennent le portable, ils mettent dans le casque, et ils circulent et ils parlent. Je ne sais pas si vous avez une fois vu ça. C'est comme ça qu'ils se comportent.
Ils conduisent avec
une
main.
Ah, bien sûr, avec une main. Ils mettent le portable dans l'oreille, avec le casque, avec deux mains, et ils continuent par parler. Vous avez parlé également au niveau du volant, c'est vrai. Et puis, vous savez, les véhicules aujourd'hui équipés de Bluetooth, les gens sont là, ils activent le Bluetooth, et puis ils sont là, ils parlent comme ils veulent, comme si rien n'était. Et d'autres également mettent également les écouteurs à l'oreille, et puis bon, ils sont là. Moi-même, j'ai assisté à un fait au niveau de l'Omega. Ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Il y avait un jeune homme, il a mis les écouteurs, le train qui était en train d'avancer, il n'a pas su. Oui, il n'a pas su. Les gens criaient. Mais lui, bon, vous savez, comme ça, la mode, il a failli qu'effectivement que le train là le percute. Hein, il a eu chance qu'il a seulement cassé le bras. Sinon, il mourait, hein, ça je vous dis une vérité. Tout le monde criait, mais bon, vous savez, il avait toujours son...
Donc, malgré le bruit que je vous dis, faisait, malgré la
vous
sirène
dis,
activée,
sympa,
malgré tous les bruits
je vous
des
dis,
voisins,
sympa,
il
sympa,
était totalement absorbé par sa
musique.
Oui,
oui. Mais vous savez, il faudrait aujourd'hui que le président de l'Université de Lomé, M. Koda, moi je voulais l'interpeller, parce que ça, prenez un matin, vous allez voir la plupart des étudiants, des étudiantes, qui descendent effectivement du bus de Sautral, rares sont ceux et celles qui ne portent pas les écouteurs dans leurs oreilles. Rares, je vous dis. La plupart, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils écoutent comme ça.
La jeunesse,
c'est mode. Ouais, et puis, ça crée des problèmes. Mettre des écouteurs à longueur de journée, comme ça, et avant d'aller au cours, je crois que ça, je ne sais pas. S'ils sont en train de suivre les cours en ligne, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Non, mais il faudrait effectivement que le président de l'Université de Lomé puisse revoir cet aspect-là. C'est important. Vous avez parlé des accidents. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous sommes en fin d'année. Il faudrait que les uns et les autres prennent des dispositions. La vie est chère. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on puisse mourir bêtement comme ça par nos erreurs. C'est vrai, la rencontre qui a eu lieu au niveau entre les responsables du transport routier et également les transporteurs, c'est une bonne chose par rapport à la sensibilisation, mais je voudrais une fois encore inviter le transport routier par rapport au permis. Ça tarde trop. Les permis ne sortent pas. Hein, ça prend trop de temps avant que vous ne puissiez avoir effectivement votre permis. Ils n'ont qu'à revoir effectivement ce système-là.
Merci. Évitons les comportements de distraction dans la, sur nos routes. Et pendant ce temps, nous en appelons aussi aux communes, pourquoi pas au ministère en charge des infrastructures, les trous qu'il y a dans nos rues, sur nos routes. Là où on a volé les avaloirs avec des trous béants. Et ça, c'est surtout dans la commune Golf 4.
Oui.
Hein, au centre-ville ici, de malins esprits ont volé les avaloirs et les rues sont là, les trous béants, rien pour banaliser, rien pour indiquer. Et puis vous circulez. Et puis là où il n'y a pas d'avaloir, c'est les trous qui se sont creusés depuis des mois, depuis des années, où les maires évitent ces rues-là, où la ministre en charge des routes, ou bien elle évite ces routes-là. Eh bien, Harry Miaou, nous attirons leur attention.
Absolument.
Leur devoir, c'est de préserver notre sécurité par en nous offrant des routes et des rues. Qui soit exempté de trous.
Je voulais plutôt qu'on parle des mairies, parce que quand nous avons parlé des taxes que les gens prélèvent jusqu'à longueur de journée et puis tard dans la
jusqu'à nuit. Jusqu'à longueur de nuit.
De nuit. Et donc, ça veut dire que dans ces communes, il y a de ces trous-là. Là où moi j'ai vu les gens percevoir la dernière fois, juste en bas, il y a des trous béants ou une route même impraticable, puisque quand ils ont fini de faire, ils sont passés par un contournement parce qu'ils ne peuvent pas aller tout droit. Donc il faut penser au même moment à tout cela. Et quand les gens crient qu'on perçoit trop de taxes, c'est justement parce que les gens ne voient pas l'effort qui se fait dans les communes là. C'est pourquoi les gens parlent. Si effectivement les communes font des efforts, elles se débrouillent, elles raclent certaines routes qui deviennent praticables et que tard la nuit, on poursuit les gens, parce que ce que moi j'ai vu la dernière fois, Uriel l'a dit avec la police. Ça veut dire que si c'est avéré que c'est réglementé, les gens viendront taper aux portes les nuits pour réveiller les gens dans ce pays pour prendre de l'argent à minuit, à 2 heures. Parce que ça là, je ne crois pas qu'il y ait un règlement qui permette aux gens d'attaquer les femmes qui vont.
Nous allons vérifier.
Oui, mais l'arachide, la nuit, non, mais même si c'est ça, c'est une mauvaise loi.
On vient de découvrir ça. Nous allons vérifier.
C'est ça.
Si la loi permet.
C'est la première fois. Moi, j'ai vu ça. Et ça m'a permis. J'ai dit, si les gens là m'écoutent, ils savent, je les ai approchés. C'est le premier que j'ai abordé, c'est le policier. Je lui ai dit, mais vous faites quoi cette nuit? Il me regarde avec son fusil et puis il dit, c'est quoi? Et j'attaque maintenant l'agent. Je lui dis, vous faites quoi avec ces pauvres femmes? Il me dit qu'ils sont en train de percevoir. Ça,
ouais.
Donc, merci. Il faut que les gens revoient. Par exemple, la route de champ de course ici, puisqu'on parle des rues.
Oui.
Il faut que les gens voient.
Ah, oui.
Finalement,
ah,
aucun véhicule ne passe là.
Des trous.
Alors que c'est un raccourci. J'ai cassé mon pneu là-bas.
Des motos.
J'ai cassé mon pneu là-bas. Et c'est un raccourci qui était très bien et qui est praticable aussi bien qu'à nous qu'aux autorités. Donc, qu'on essaie également de voir ce qu'on peut faire.
Je ne sais pas de quel tronçon.
Non, devant nous ici.
Alors, ça, c'est
devant.
Ça, c'est de
ce champ de course.
Qui va jusqu'à Badago.
Badago.
Tout comme Badago, c'est ça. Je pense que nous sommes dans Golf 4, là-bas, du boulevard des armées, en venant vers Canal.
Oui.
Franchement, cette rue-là, il ne faut pas l'emprunter. Ce matin, il ne faut pas l'emprunter. Quand vous laissez le boulevard des armées pour venir vers Anoukopé, mais vous pouvez abandonner votre voiture dans un trou qui peut avaler 5 personnes.
Oui.
Ce n'est pas possible. La rue dont nous parlons, franchement, si quelqu'un veut aller à Anoukopé, je ne le conseillerais pas d'emprunter cette rue. Elle est très dangereuse. Les trous, ce n'est pas des nids de poules. C'est des trous comme...
Des trous d'éléphants.
Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ces trous-là sont restés comme ça. C'est à qui la responsabilité? À la mairie, au ministère des Travaux publics ou bien à qui? C'est la sécurité des usagers de la route qui est en jeu là-bas. Donc, il faudrait vraiment que ce tronçon-là
soit réduit
rapidement.
Hein.
Oui, bon, c'est ici que nous, on a vu.
Oui, mais presque les routes de Lomé aujourd'hui, c'est des routes à problème. Prenez par exemple le tronçon Lomégan pour aller vers le siège de ancien siège de Togocel. Mais c'est des problèmes également là-bas. C'est des sous-problèmes.
Au niveau des rails là-bas.
Partout. Vous prenez également, quand vous allez vers Agbenepedo, vous prenez par exemple la route d'Agbenepedo pour aller vers la station. C'est également un autre problème. Il faut reconnaître que nous avons des sérieux problèmes en matière de route au Togo. Vous l'avez si bien dit, je ne sais pas si c'est le ministère des Travaux publics, est-ce que c'est les mairies, et qui peut réparer les routes, là, on ne sait pas. Et puis l'autre aspect, prenez, regardez les routes qu'on vient de construire. Et également, il y a des trous un peu partout. Si on ne peut pas, on ne fait pas attention, les trous, là, également, risquent encore de dégrader complètement les routes que nous avons.
Oui, oui.
Vous voyez, donc, quand il y a un
les
trou...
Les trous, et puis Didier Assoba, c'est l'éclairage public. Les lampadaires qu'on a installés et qui tombent comme des feuilles mortes, ça tombe partout, partout. Et ce matin même, là, il y a un lampadaire qui s'est écrasé quelques heures avant qu'on passe là, aussi bien sur le grand contournement que partout, mais à se demander dans quelles conditions ces marchés ont été passés et que les gens nous ont installé ces poteaux-là.
Non, ça, avant Didier,
oui.
Est-ce que vous avez une fois emprunté la route qui mène vers la Hague?
Oui.
Vous connaissez
elles sont
cette
nombreuses.
Route? Oui. Voilà. Vous voyez également cette
oui.
route
oui.
Alors, la route là, ne fait pas encore
surtout
5 ans.
Au niveau de l'église
évangélique presbytérienne.
Là. Ouais, ouais. Si vous ne tenez pas votre volant
voilà.
à deux mains,
vous risquez.
Votre voiture risque carrément de faire un demi-tour à 180 degrés. Didier Assoba.
Surtout que cette route n'est pas très loin du siège de notre très grand parti. Et donc, je pense fondamentalement que.
Voilà.
Je pense fondamentalement que il va falloir. Non, c'est sérieux.
Parce que ton grand parti, c'est lequel?
Non,
là, tu rejoins Molière. Qui te demandait de corriger les mains sans rien. Il vaut mieux rire que pleurer. Ok, continue, Didier.
Et au-delà de cette route-là, a la même configuration aujourd'hui que quand vous prenez un peu, vous dépassez. Toglekopé, vous êtes en train de descendre vers Adetikopé. Vous voyez les mêmes ondulations qui donnent lieu à des accidents très facilement.
Oui.
Moindre inattention, vous cognez d'autres. Et ce n'est pas correct que des routes comme ça soient encore là et qu'on ne dit rien. Il faut que les autorités peut-être interpellent les entreprises qui ont fait les travaux pour que ces entreprises la corrigent. Tu parles justement de lampadaires qui ne sont pas là, qui ne sont des fois pas allumés sur des routes où il y a
donc
beaucoup...
Donc on a planté, par exemple, sur la nouvelle route d'Adito Gomez-Anguera, on a planté des lampadaires qu'on n'allume pas encore, mais les poteaux tombent déjà.
Oui, mais oui, voilà. C'est peut-être... C'est là, les bureaux de contrôle de ces travaux-là. Il faut qu'on les interpelle. Comment est-ce que ces bureaux-là viennent valider de telles réalisations et qu'on réceptionne la plupart de ces travaux-là, et que le lendemain déjà, peut-être que ces lampadaires-là, l'éclairage public, les ampoules ne s'allument pas, comme tu as dit, d'autres poteaux tombent bien même avant la réception, on réceptionne les travaux quand même. Donc c'est quand même un peu aberrant que dans la République, il n'y a pas des fois de la rigueur dans la réalisation de certains travaux. Je pense que il faut que les autorités regardent cela, parce que madame le Premier ministre a dit récemment, au détour du lancement d'un projet à 2 février, que les travaux qui sont repris, c'est des budgets supplémentaires. Mm-hmm. Les travaux qui ne sont pas livrés à temps, ça pose des préjudices à la population, et des travaux mal faits sont vraiment des causes d'énormes dommages, non seulement à l'État, au budget de l'État, mais aux populations également qui devraient en utiliser. Donc les routes, c'est pour tout le monde. On ne va pas dire que c'est pour les riverains ou c'est pour les gens d'une certaine communauté. On est en train de cibler les routes déjà, mais nous circulons partout à Lomé, nous devons emprunter des routes. Donc si les travaux doivent être faits, il faut que les travaux soient faits dans les meilleures conditions. Et si ce n'est pas bien fait, qu'on interpelle les bureaux de contrôle, les entreprises, peu que l'argent qu'ils ont pris là, qu'ils viennent compléter les travaux pour que les travaux soient bons.
Les auditeurs nous demandent de parler de la mission numéro 2, notamment le trou qui s'est creusé au niveau du port autonome de Lomé. Ça fait déjà des mois que ce trou existe et on y travaille, mais les travaux traînent à longueur et le désagrément pour les usagers, c'est de longues files d'embouteillage qui font perdre énormément de temps. Et c'est la zone portuaire. Donc vous imaginez un peu les opérateurs économiques
qui
perdent du temps et beaucoup d'argent.
Oui, mais je crois qu'il faut qu'on en parle. Tu faisais la main pour dire qu'on a qu'à arrêter. Mais c'est très important. Les Togolais ont besoin de savoir que nous, journalistes, nous faisons également notre travail. Parce que là, ce que nous sommes en train de dire, c'est la vitalité même de notre pays. Parce qu'on parle des routes. Et il n'y a pas que ce que nous avons dit à Bay, la route de Bay, au niveau du commissariat. Je ne sais pas quel est ma
arrondissement.
Aura qui va, aura la Vora, on sait là. Cette route est impraticable.
Le quartier de Bay jusqu'à
la c'est impraticable aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Et donc, il se peut que des gens soient dans leur bureau, qui est en train de se gonfler, que bon, voilà ce que les journalistes sont en train de dire. Nous faisons du travail d'utilité publique. Nous faisons ça pour que eux, peut-être, qui ignorent, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose. Et donc, qu'ils prennent la mesure de la chose, qu'ils aillent vérifier et voir, et faire le nécessaire pour que Lomé la Belle soit toujours Lomé la Belle, et que tous les usagers puissent circuler librement. Surtout que je continue pas à dire que les mairies ne font pas de cadeaux aux citoyens.
Mais ça, c'est plutôt du réseau national. Le réseau
national.
Oui, mais oui, tout le, mais, par exemple, quand on prend Lomé, toutes les routes où on a mis du pavé, là, c'est des désordres un peu partout. Bekpota, Félix Foubouani, Djidjolé, vers Albalipédo, Witi, jusqu'à Boulevard de la Cara, tout ça. Toutes les routes de pavé, là, c'est des problèmes. Donc, je ne sais pas pourquoi on les laisse comme ça dans l'état et on ne trouve pas de situation. Des fois, on essaye quand même de remettre, remettre des pavés où c'est enlevé, mais trois jours après, ça s'enlève encore.
Oui. Donc, ça vous savez. C'est son problème, mais ouais. Je voudrais vraiment plaindre particulièrement Bay.
Oh,
Bay, le marché Bay, le quartier dans lequel Jacques a grandi. Hein, vous voulez aller au marché de Bay, ni la route aller.
Ni le retour
ne sont bons.
Non, ça, prenez par exemple l'axe boulevard Ofoué-Boigny. Vous prenez l'axe à Kolivissime. Vous prenez l'axe Koutoukou-Kondji. Vous prenez l'axe par exemple Sarakawa vers Alaglo-Kondji. Vous ne pouvez pas. Eh bien, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Entre-temps, en conseil des ministres, on avait parlé, vous vous rappelez, je crois que c'est en 2000. Ça passe en 2021-22, où on disait que les quartiers précaires, là, l'État devait faire des choses au niveau de ces quartiers.
Oui.
Je me rappelle, on a eu une rencontre même à Ebé, on avait applaudi. Mais jusque-là, rien.
Oui.
Quand vous prenez par exemple la rue au niveau de Fiata pour aller vers le marché, entre-temps, on a renvoyé les gens pour commencer les travaux, mais tout est là-bas, rien.
Oui. Oui.
Vous prenez par exemple l'axe dont je vous parlais en allant vers Alaglo-Kondila.
Oui.
Mais un tracteur a bloqué même la voie carrément là-bas. Ça fait des mois. Rien n'est fait là-bas. Moi, je crois que je serais par exemple à la place du président Faure Gnassingbé. J'allais demander à chaque Togolais d'avoir une moto.
Ah bon?
Oui, pour circuler, pour voir ce qui se passe. La souffrance
à chaque autorité.
Autorité, oui.
Ok.
Hein? D'aller en moto pour voir la souffrance des populations. Parce que, sait-on, les 4x4, ça ne leur dit rien. Vous comprenez? Parce que quand ils prennent leur 4x4 là, ils circulent, ils n'ont pas de problème. Mais toi et moi, je dis le nombre de choses qu'on change par
jour. Les rotules.
Les rotules par jour. Mais c'est pas possible. Il y en a, je vous dis ça, qui ne sortent même plus avec leur véhicule de leur maison. Ils sont obligés de garer et de prendre les émigrants pour venir au boulot. Repartir, je vous dis, j'ai vu un fonctionnaire dont je ne vais pas donner le nom. J'ai pitié de ce monsieur. Vous savez ce qu'il fait?
Non, dis-nous.
Il fait auto-stop. Les véhicules qui vont au port pour ramasser le sable. Là.
Oui.
Il prend ça, il descend au niveau du carrefour GTA, il prend une moto là-bas avant d'aller au boulot. Le soir, il quitte, il fait encore auto-stop parce que ça, voilà, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc je crois que, comme on le dit, c'est pas seulement Lomé, à l'intérieur même du pays, c'est encore pire. Je ne sais pas si tu as une fois été à Sokodé.
Ah oui, j'en suis revenu il y a à peine deux
si
mois.
Si tu as une fois été à Sokodé, tu sauras. Regarde, circule un peu dans tout Sokodé-là.
Non, j'ai vu. J'étais allé animer avec Michel. C'était courant octobre. Ouais, ce n'était pas fameux. Hein. C'était pas fameux. Et j'anticipe, hein, bientôt, nous aurons les élections. Et nous verrons quand même des candidats de tous les partis aller dans ces quartiers faire des promesses mirobolantes aux populations. Et je nous vois déjà, nous, habitants de ces quartiers, applaudir jusqu'à nous rompre les phalanges. Et les élections passées, nous allons retomber encore dans notre quotidien. Ainsi va le Togo. 64e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était hier. dimanche pour dire que les chefs d'État ne chôment pas, même les dimanches. Ils ne vont pas aller percevoir des taxes, mais ils vont travailler en tenant des conférences. Méga Info qui nous en parle dans sa parution de ce jour, 64e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, l'état de santé des pays membres de la CEDEAO, justement, tel que le journal nous en parle. Nouvelle opinion l'écrit aussi. Ce sommet qui a été l'occasion pour les chefs d'État, de gouvernement, de revoir les copies pour une CEDEAO acceptable et profitable pour tous. Liberté, lui, écrit le challenge de la CEDEAO lors du très attendu sommet d'Abuja. Les résultats de ce sommet, d'autres journaux nous en parlent, comme Togo Matin, qui écrit Fornia Singbe a discuté de sujets brûlants avec ses homologues de la sous-région, sommet qui a vu l'absence remarquée de certains leaders, pour ne pas les citer, les chefs d'État du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, je crois également du Bénin. Qui n'étaient pas là, ces chefs d'État dont Togo Matin dit qu'ils ont déclaré forfait, ils ont été absents au sommet d'Abuja. Eux, dont l'option qui préférait jouer à la politique de va-t-en-guerre contre les pays voisins, dont le Niger, ils ont choisi de s'absenter. Et puis, l'une des décisions de ce sommet, c'est que la CEDEAO maintient notamment les sanctions contre le Niger, mais on sent quand même le son un peu à l'adoucissement, notamment quand la conférence des chefs d'État crée une commission de trois chefs d'État, dont le Togo, le Bénin et la Sierra Leone, pour engager des discussions entre le Niger et ses partenaires. Jacques ?
Oui, je crois que c'est une bonne chose. Il faut reconnaître que la diplomatie togolaise est une diplomatie agissante, parce qu'il faut reconnaître...
On parle du 64,
hein. Oui, non, c'est-à-dire on parle du Niger, parce que ce qui s'est passé avec ce sommet, parlant du Niger, il faut reconnaître que la venue du général Tiani ici au Togo a permis quand même de jeter des jalons qui ont permis aujourd'hui à ce que certains chefs d'État puissent quand même ramollir un peu leur position. Si aujourd'hui... Petit Talon accepte aujourd'hui d'être dans une commission pour échanger.
Dans une commission avec bon. Fornia Singbe du Togo
et Israël, Madabio.
Madabio de la
Sierra Leone. Vous voyez que c'est vraiment une très bonne chose. Et qui dit Petit Talon dit Tinubu. Donc c'est pour vous dire que quelque part, ce que Petit Talon rapportera par exemple à Tinubu, ce qui veut dire que les sanctions vont progressivement être levées par rapport au Niger. Donc je crois que ce que notre président a fait ici au Togo et les contacts qu'il a eu à nouer déjà avec les généraux au Niger ont permis quand même aujourd'hui qu'on puisse quand même avoir une petite ouverture des négociations, des discussions par rapport à la position des uns et des autres sur le cas du Niger.
Justement, Togo Matin qui confirme que le Togo ne cache pas son engagement envers le Niger. Quand Fornia Singbe a accueilli le général Tiani la semaine dernière et que Nouvelle Opinion nous rappelle que Fornia Singbe et son homologue nigérien ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, sujets dont Fornia Singbe s'est fait le porteur à la conférence d'Abuja. Kakbala?
Bon, vous savez, moi ce qui m'intéresse c'est l'arrivée du président de la transition nigérien au Togo. Tout ce que les Togolais doivent savoir, peut-être même si ça n'a pas été dit clairement, la crise au Niger n'arrange pas Lomé aussi. Les Nigériens, c'est une autre grande partie alimentaire du port autonome de Lomé. Vous savez, tous les titans qui quittent le port autonome de Lomé, on en compte beaucoup qui quittent pour rallier le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Mais aujourd'hui, s'il y a un blocus, ou comment vous l'appelez, je ne sais pas, qui empêche tout ce transit-là d'avoir lieu, je pense que c'est le Togo qui sort le plus grand perdant.
Le Togo, pas seulement le Togo, hein, même le Bénin,
le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
personne dans la sous-région ne sort gagnant de cette situation.
Bon, il se peut que les autres pays frontaliers puissent compter sur d'autres ressources économiques, mais nous, Nous savons que le port, notre port autonome, c'est le poumon de notre économie. Mais si aujourd'hui, on soustrait les convois du Niger, je pense que c'est un coup dur pour notre port. C'est peut-être tous ces facteurs-là qui ont motivé la rencontre entre le général Poutis et notre président pour pouvoir trouver des palliatifs, des alternatives. Parce que quoi qu'on dise, ces titans qui sont garés à la frontière du Niger, qui jusqu'ici n'arrivent pas à intégrer, je ne crois pas que cela soit une bonne chose. Parce que même l'Europe qui des fois semble nous donner des leçons, l'Europe qui des fois semble nous donner des orientations, ne pourrait pas prendre des sanctions du genre jusqu'à ne pas penser à l'être humain. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Quand même, il y a toujours des couloirs humanitaires. Mais si nous, en Afrique, on pose des sanctions sans un axe humanitaire, je pense que là, nous ne faisons pas tellement, excusez-moi, usage de notre raison, parce que si le Niger est en souffrance, le Togo sera en souffrance, le Bénin sera en souffrance. Et finalement, quelle est la solution que nous sommes en train de chercher?
Ça nous rappelle de Douloufi Bioni, quand le coup d'État a eu lieu le 16 juillet dernier, les pays de la sous-région CDAO ont interdit jusqu'au transport des vivres, jusqu'à des médicaments, le courant même a été coupé, pas seulement au palais présidentiel, mais c'est l'ensemble du peuple nigérien qui en a pâti.
Et puis l'Afrique voit aussi un mandat d'arrêt lancé contre Poutine, par exemple. Aujourd'hui, Poutine participe à tous les sommets où il veut.
Restons en Afrique. Au début, certains pays étaient très durs, mais quand on lit le communiqué qui a sanctionné le sommet d'hier, on sent quand même que la CEDEAO met un certain volume d'eau dans son vin.
Ben, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire et qu'est-ce qu'elle avait tenté quelque chose qui n'a jamais marché. Il y a eu un lever de bouclier de tous les Africains contre cette décision de la CEDEAO d'aller faire la guerre aux militaires à Niamey là-bas. On se demandait comment cela pourrait être possible. Ils ont expliqué comme ils pouvaient, mais personne au sein de la population en Afrique de l'Ouest n'était vraiment pour une telle option. Et finalement, ils ont compris que ça n'allait pas marcher. Et on a compris justement que cette option leur avait été dictée de quelque part. Notamment, Uriel se plaint tout à l'heure, oui, et nous tous nous l'avons soulevé à l'époque, que comment est-ce que des Africains pouvaient coller de telles sanctions à d'autres Africains alors que, en violant toutes les conventions, hein, même à l'international, mais il y a des conventions qui interdisent de coller de telles sanctions à des pays enclavés comme le Niger. Des pays qui n'ont pas de façade maritime, de leur coller de telles sanctions. Mais la CEDEAO, des dirigeants de la CEDEAO, des chefs d'État ont pu prendre quand même une telle décision, sachant pertinemment que ça violait d'abord les dispositions même de la CEDEAO et de telles conventions qu'eux-mêmes ils ont signées. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a compris finalement que 4 mois après, il n'y a plus d'espoir finalement pour ramener Bazoum au pouvoir. Et ils sont là en train de négocier avec les généraux du CNSP pour voir comment est-ce qu'on trouverait une durée courte de la transition. On sait que ça va être le même scénario qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'au Niger
et
en Guinée. Et ça va être pas forcément ça. Mais on se demande pourquoi la CEDEAO n'a pas montré une telle fermeté envers le Burkina, envers la Guinée par exemple, et que la CEDEAO s'acharne sur le Niger comme ça, en disant, mais ils sont allés en Guinée, ils ont même discuté des choses, mais au final, mais personne n'a annoncé officiellement quand est-ce que la transition prend fait au niveau de la Guinée. La CEDEAO fait ses sommets, ne parle jamais de la Guinée, et c'est seulement le Niger. On croirait à une fixation, comme si la CEDEAO a son siège ou a perdu quelque chose au niveau du Niger, mais après, on ne comprend pas. Il y a un pays en difficulté. On est tous d'accord que la CEDEAO puisse accompagner le Niger. Mais cette fixation, genre, s'ils ne font pas ci, on ne va pas alléger les sanctions. S'ils ne font pas ça, on ne va pas alléger les sanctions. Au même moment, vous demandez aux militaires de donner le courant à Bazoum, de lui donner à manger, de lui donner ses médicaments. Mais vous avez coupé le courant, y compris dans les hôpitaux. Et vous avez écouté le ministre de la Défense nigérien dire ici que quand le Nigeria avait débranché, des gens sont morts dans des hôpitaux en pleine opération et tout ça. Mais on veut qu'on donne la lumière à Bazoum. Alors que c'est à cause de lui qu'on coupe le courant que des gens sont morts. Et à cause de lui, d'autres n'ont pas de médicaments. D'autres n'ont même pas à manger. Donc des gens peuvent mourir tranquillement. Comme si Bazoum, lui, il est d'une autre nationalité. Et qu'il est là-bas, on veut le sauver. Et que ceux qui sont là-bas sont des Nigériens, ils peuvent mourir. Donc la CDAO doit complètement changer sa façon de voir des choses, sa façon d'analyser, d'appréhender même. Un certain nombre de problèmes chez nous ici pour qu'on ne soit pas dans
merci. Des... En juillet, la CDAO exigeait que les militaires quittent le pouvoir immédiatement et que Bazoum retrouve son fauteuil. Depuis hier, le sang est un peu plus doux. La CDAO demande quand même que Mohamed Bazoum et ses proches soient libérés, mais plus réinstallés au pouvoir. Et également, la CDAO demande que la junte militaire propose un calendrier à plus ou moins brève échéance pour des élections. Accompagnons ce ton de plus en plus doux, notamment avec ce comité de trois chefs d'État, le Togo, la Sierra Leone et le Bénin, qui vont jouer aux bons offices. Je voulais qu'on parle coopération développement, notamment avec ce que Togo Matin nous apprend depuis Dubaï, le Togo qui se trouve à cette 28e COP, et le Togo qui demande 6 milliards de dollars américains, convertissez en francs CFA, vous verrez ce que cela vaut. Et ceci, c'est pour promouvoir l'agriculture durable et présenter les priorités du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Togo qui veut atténuer les effets dévastateurs du changement climatique, promouvoir la résilience des communautés vulnérables, dont nous avons beaucoup parlé ici. Le Togo également qui veut porter le taux de couverture forestière à 25% du territoire, notamment en plantant 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, et ici et également atteindre 10% d'augmentation de carbone. Autre aspect de coopération, c'est ce dont nous informe Togo Matin, à savoir un accord de 400 millions de dollars au bénéfice du Togo. Et là, c'est le FMI qui a dépêché une mission au Togo du 29 novembre jusqu'au 8 décembre dernier. Et ces 400 millions de dollars américains constituent une facilité élargie de crédit dans un nouvel accord de 42 mois. Ces 400 millions de dollars américains, s'ils sont effectifs, vont aller aux besoins urgents en matière de dépenses, notamment en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de préservation de la stabilité sociale. Voilà les sujets que nous avons proposés, que nous avons pu débattre, discuter entre nous.
Concernant ces sujets
de coopération.
Coopération, moi je veux parler des sujets liés au mouvement du chef de l'État, au déplacement du chef de l'État, que ce soit au niveau du Nigeria, à Abuja, au niveau de la COP 28, non ?
Oui.
Oui, et à tout autre sujet qui font bouger le chef de l'État. Moi, je ne suis pas président d'une organisation de presse. Si vraiment nous avons une ministre, si elle peut travailler en son temps pour que ce climat, cet environnement-là puisse renaître. Parce que nous sommes là à parler toujours parce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, parce qu'on nous a balancé un communiqué, parce qu'on a. Il n'y a pas de journalistes
qui accompagnent le chef de l'État dans ses déplacements.
Le chef de l'État et des fois des ministres envoyés par le chef de l'État. Moi, je trouve que s'il y a un travail à faire par notre ministre, humblement.
La nouvelle ministre. Florence Yawa Krigan.
Tout à fait. En qui tout le monde a confiance. Que ce travail-là puisse se faire afin que nous arrêtions d'être des relayeurs à distance. Ce n'est pas franchement une bonne chose. Vous tous ici autour de cette table, vous avez plusieurs fois voyagé, que ce soit à travers des missions officielles, que ce soit à travers des missions privées. Vous êtes allé en Israël, en Chine, partout, dans Schengen, vous avez parcouru tous ces pays-là. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous n'y allez pas et vous ne dites rien. Vous ne dites rien.
Je voulais rassurer.
Non, c'est pas nous qui décidons.
Ouais, voilà. Ouais.
Nous sommes les bénéficiaires de ces voyages et nous en sommes aujourd'hui les victimes. Mais Jacques, ce que dit Kakpala, c'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, nous retrouvons réduits à relayer les informations que nous donne le service de presse de la présidence ou bien les sites du gouvernement. Il n'y a plus de journalistes, du moins du privé, qui accompagnent les officiels du Togo dans leurs déplacements.
Je voulais rassurer mon confrère Uriel sur ce qu'il venait de dire. Moi, personnellement, moi j'ai porté ce message-là. Parce que je me suis dit, notre président, il voyage beaucoup. Il fait des choses, mais finalement, ça s'arrête seulement au niveau du service de presse de la présidence. Les compatriotes, ou soit les journalistes que nous sommes, n'arrivons pas à décortiquer réellement ce qui se passe à nos populations, à nos lecteurs. Il faudrait que cela se fasse. J'ose croire que dans les jours, les mois et les années à venir, les choses vont changer. J'ose croire que ça va changer.
Je sais que les organisations de presse y travaillent.
Mais je voulais revenir un peu sur la COP.
Oui.
23 ou bien
28.
28.
Voilà.
Il faut reconnaître que ça. Voilà les gens qui ont l'argent, qui ne savent pas quoi faire. Les gens sont là-bas, ça fait 2 semaines. Hein.
Oui.
Ils sont là, dans des hôtels, free, ils mangent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Après, ils vont revenir encore avec des cadeaux. Mais on discute de quoi, franchement. On ne comprend rien.
Ils discutent du climat de la planète.
Quel climat de la
planète. Surtout ce qui est un peu paradoxal, on dit que enfin, nous vivons la planète qui se surchauffe. Et il dit se retrouver à Dubaï, c'est pour atténuer, c'est pour diminuer le changement climatique. Or, il nous revient que il se retrouve là-bas dans le froid à Dubaï parce que les hôtels sont hyper climatisés. Hein? Hôtels hyper climatisés pendant qu'on nous demande de réduire la consommation d'énergie. Arim Yaou, on termine par toi.
Non, moi j'ai l'impression qu'il y a une pagaille internationale qui se joue que nous, on ne comprend pas. Vous avez vu que les gens nous tourmentent dans le monde aujourd'hui. Récemment, en 2020, nous étions là quand, boum, on a dit il y a Covid. Vous avez vu comment le monde a été bouleversé? Pendant que tout le monde s'acharnait à dire Covid, à porter les bavettes, à nous faire injecter, à courir par-ci, par-là, et que les pays débloquent des milliards chacun coup, on nous sort maintenant une guerre. On dit que bon, voilà, il y a la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre. Et ouais, tout le monde a tourné là-bas, on en est là. Et récemment, on a tenté même d'inventer d'autres maladies. On n'a pas trouvé, et tout ce qu'on dit, COP 28, COP quoi, il y a beaucoup d'événements où les gens se rassemblent. Mais j'avoue que c'est les auteurs même qui se érigent en donneurs de leçons. Ceux qui font même détruire, ceux qui détruisent l'environnement, ceux qui polluent le monde, ce sont eux qui sont devant.
Merci.
Et comment quelqu'un le dit.
Le changement climatique, c'est une réalité. Mais est-ce que les COP là sont vraiment la solution? La question reste posée. Nous allons à la pause et nous continuons avec les auditeurs. Qui vont intervenir sur les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-73-75. Eh bien, c'est parti. Nous avons parlé longuement de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec les enjeux liés à ces droits-là aujourd'hui. Nous avons revisité le sommet de la CEDEAO, notamment ce ton que nous notons plutôt un peu plus adoucissant. Nous avons parlé également de nos infrastructures routières avec beaucoup de trous qu'il faut combler. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui. Bonjour, monsieur Tchagnao.
Bonjour, Didier.
Didier, comment tu vas?
Comment ça va, monsieur Tchagnao?
Je vais très bien, Didier.
Bon, il y a eu un problème la dernière fois. Nos amis de la mer, ils ont des problèmes. Donc, j'avais suggéré pour qu'ils s'approchent de vous, l'association des journalistes pour la sécurité maritime, que peut-être vous pourrez faire un lobby. Donc, c'était le vendredi, là, vous n'étiez pas là. Faut
est-ce que vous pouvez revenir sur le sujet dont nous avons discuté aujourd'hui?
Pour revenir sur le voyage là, le truc du Niger là.
Oui.
La première des conventions, c'est de lutter contre la prise de pouvoir par la force. Moi, je trouve anormal quelqu'un qui est militaire parce qu'il a la force, il prend un pouvoir et puis on doit s'accommoder de ces régimes. Parce que le Togo, quand nous-mêmes nous sommes champions dans le coup d'État, le coup d'État qui a coûté la vie à notre très cher président Olympio en 63, et puis le coup d'État permanent dans lequel nous sommes, et pour combler notre déficit et de légitimité, on s'en va s'accommoder de ces régimes illégaux. Si tout le monde était d'accord, était ferme comme le président du Bénin et puis les Tinubu, je pense pas que les militaires là seront encore au pouvoir. Parce qu'il y a des failles, comme le Togo, que les trucs là se passent encore comme ça. Et puis pour
donc,
le
Didier, Didier, en somme, vous optez pour la méthode dure.
Oui, mais parce que si tout le monde est, tout le monde, si tout, nous sommes unanimes et durs, je pense pas, parce qu'il y a des failles.
Oui.
Parce que comment quelqu'un prend, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants à la maison? Vous prenez le pouvoir par la force.
Non, je suis d'accord avec vous, mais sur le principe, mais, Didier, est-ce que mais vous n'ignorez pas que la méthode due risque de faire beaucoup de victimes collatérales, notamment oui, le pauvre peuple nigérien.
Vous nous dites souvent pourquoi le Niger? Il y a eu le Burkina parce que les gens sont tués. Il y a le Mali, les gens sont tués. Il y a la Guinée, les gens sont tués. Donc, c'est pourquoi les gens là viennent. Mais j'ai une question qui demeure, vous ne me répondez jamais, journaliste. Là, la question là-bas à monsieur Tanyawa Muriel.
Oui, la question. Oui.
Sous couvert des arguments fallacieux, les militaires font un coup d'état fort. Vous allez nous dire d'aller aux transitions ou bien vous allez combattre? Ils n'ont quand même répondu sincèrement. Bon, et puis vous voyez, vous-même les journalistes.
Non, Didier, là, ce que vous dites là, c'est là du domaine de la fiction.
Non, mais admettons, rentrons dans la fiction. Rentrons dans la fiction.
Okay.
Nous sommes dans la fiction.
Reposez le problème. Reposez votre fiction. Didier, reposez votre fiction.
Oui, mais on n'a qu'à rester dans la fiction.
Oui, allez-y.
Bon, maintenant, vous savez pourquoi le président ne vous associe pas à leur voyage. Vous allez voir M. Sass. Quand deux mois, trois mois les élections arrivent, vous avez vu certains journalistes là, ils vont venir demander pardon à venir aux émissions. Parce que ça va commencer. C'est quand les élections s'approchent que le pouvoir, il s'essaie de s'accommoder avec vous. Après vous avez bien pressé, ils vous jettent comme les errants. C'est comme ça que le régime fonctionne. Faut jamais les deux. Vous avez un pouvoir que vous n'utilisez pas. Ne couvrez pas le truc là, même à Lomé.
Merci Didier. Le débat est bien lancé, mais souffrez quand même que nous passions au suivant. Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, allez-y.
La foire de cette année, c'était n'importe quoi. Hein. Bon, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais vraiment.
Non, on va parler de la foire aujourd'hui. Okay. Attendez le jour où nous en parlerons.
Je voulais quand même dire que c'était. Voilà, il faut que le nouveau DG revoie ça.
Okay.
Merci et bonne journée.
Je vous en prie. Troisième auditeur.
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Gadou.
Monsieur Gadou.
Oui, lui-même.
Oui.
Bon, est-ce que la CEDEAO a raison de sanctionner ces trois pays? Est-ce que les sanctions là sont dans le règlement de la CEDEAO? Vous savez, les militaires au pouvoir sont égales. C'est-à-dire la CEDEAO a dit qu'ils sont illégales. Alors que ceux qui ont créé la CEDEAO, c'est des militaires. Et il y a des membres qui sont militaires. Et ces gens-là qui veulent que les militaires passent au pouvoir, ils sont illégaux. Donc ils n'ont qu'à quitter là-bas. Pour que je dois prendre leur place. Merci.
Je vous en prie. C'est vrai que à la création de la CEDEAO en 1975, pratiquement la moitié de la CEDEAO était dirigée par des militaires. Mais de 1975 à 2023, il y a, je crois, 48 ans. Entre-temps, beaucoup d'eau a passé sous le pont. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, madame.
Je vous prie de m'excuser. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé et insisté sur les infrastructures routières.
Oui, madame.
Bon, sans vouloir vexer qui que ce soit, je voudrais que tout le monde réalise que Lomé n'est pas une des grandes villes du Togo, mais plutôt la capitale.
Oui.
La capitale du Togo. Comme Accra l'est au Ghana, Abidjan l'est en Côte d'Ivoire, oui. Et même Cotonou à côté ici.
En somme, la vitrine du pays.
Mais tout à fait. Mm-hmm. Est-ce qu'on est aveugle dans le pays? Est-ce qu'on regarde bien? C'est la capitale. Merci.
Je vous en prie. Alors, ce que madame dit, même si elle ne s'est pas présentée, est-ce que le président, est-ce que la chef du gouvernement, est-ce que les ministres, est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que les plus hautes autorités savent que Lomé est la capitale et la principale vitrine de notre pays. Si oui, ça n'a qu'à changer dans nos rues très bientôt. L'auditeur suivant, bonjour.
Ouais, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce.
Ok, c'est Senghor. Hein. Je salue tout le plateau là.
Oui.
Bon, vous savez, ça c'est plus les autres journalistes. L'Afrique ne va jamais se développer, même le Togo, avec la politique, non. L'Afrique va se développer comme notre pays, le Togo, avec le civisme, l'éducation et la crainte de Dieu. L'éducation, le civisme et la crainte de Dieu.
Vous avez oublié le travail.
Allô?
Vous avez oublié le travail.
Oh, non. Bah,
si.
En fait, le civisme, tout ça, ça fait partie.
Non, non, les autres pays, c'est pas le travail qui sont développés.
S'il vous plaît. Vous savez, ce matin, je voudrais m'intéresser de notre pays, le Togo. Les autres pays, c'est bon. Oh, mais commençons par avec notre pays, le Togo. Vous savez, je voudrais vraiment interpeller mon grand frère, le président du Togo, Faure Gnassingbé.
Oui.
Premièrement, il n'est pas le seul en point de monsieur Eyadema. Mais si aujourd'hui il est président au Togo, c'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit président. C'est un don. Mais ce qui est important, il faut qu'il sache que gérer une nation, on doit quand même penser à cette nation. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est que vraiment le président...
Allez-y concrètement, votre idée s'il vous plaît. Nous sommes à la radio.
Allô?
Allez concrètement votre idée.
Voilà. Ce que je voudrais dire est... Moi, je me pose la question, parce que vous venez de dire tout à l'heure, les routes sont gâtées, et il y a des trous, les routes, et on n'a pas de route là. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a le ministre des transports routiers? C'est la question. Mais pourquoi le chef de l'État ne fait pas une soirée sortie, prend sa voiture de commandement avec deux escortes là?
Mais l'ami, nous avons dit ça. Il y a même Jacques a même demandé que les ministres sortent de la... aillent en ville à pied ou à moto.
Mais vous ne voyez pas que ces ministres-là sont en train de conduire le président dans un trou?
Merci, l'ami Senghor. Oui, mais nous vous prions d'aller directement à l'objet de votre préoccupation pour que nous puissions gagner du temps. L'auditeur alors, suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Nana FM.
Pardon?
C'est Nana FM.
Canal FM, ici.
Canal FM.
C'est monsieur?
Oui. Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Ok, vous êtes sur Canal FM, allez-y.
Kofi.
Ok, allez-y.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Ah, je vous remercie pour tout ce qui est sur le plateau. Je vous ai beaucoup attendu, mais ce matin, je remercie le Seigneur. Parce que Togo Telecom là.
Togo Com. Oui.
Ils m'ont aussi fait ça. Moi, je suis handicapé, couché. Et on m'a envoyé l'argent. Et ils ont pris ça.
Et quelqu'un vous a volé ça?
Oui.
Oui.
Je suis allé réclamer. On m'a donné le nom, le numéro de la personne. Le numéro ne passe pas. Et ils m'ont donné le nom. Maintenant, je dis, bon, comment je fais pour trouver la personne? Il me dit de chercher. Si eux, ils veulent aujourd'hui là, ils peuvent bloquer la personne et le prendre.
Oui.
Maintenant, me dit moi de chercher une personne sur 8 millions de Togolais. Moi, en tant qu'un individu, comment je fais pour retrouver la personne?
Oui. Vraiment, la sécurité de nos connexions, des applications, c'est très important, c'est très important. Togocom, Move Africa, l'ANSI. Et tout ce qu'il y a dans ce pays, il faut vraiment nous mettre en sécurité. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Worou.
Worou.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Je vous salue, je suis sur le plateau.
Oui.
Oui, concernant notre infrastructure du Togo, infrastructure routière.
Oui.
Ça maintient, ça agace. On ne sait pas comment est-ce que on peut avoir l'amour pour son pays et laisser sa capitale dans cet état-là, dans n'importe quel quartier de Lomé. On ne peut pas passer, on ne peut pas rouler. Et bon, je veux savoir si nos autorités ont des idées positives envers la population. Et de deux, ce sont eux qui voyagent partout. Chaque semaine, ils sont dans des avions, dans n'importe quelle capitale de l'Afrique et de l'Europe. C'est comme ça que leur pays sont, et ils vont, ils viennent, et ils se contentent de leur position pour rester dans ce pays comme ça. Ça fait pitié, ça fait honte, monsieur Sass.
Je vous en prie, je transfère.
Et c'est pas méga.
Oui.
On arrive à construire une seule route, il prend des voitures et aller chanter sur la voie là. Quand on a une vraie route, moi, en voyant ça, ça me fait honte, ça me fait pleurer, monsieur Sass. Il est temps pour que le Togo aussi change de physionomie. Un peu.
Merci.
Nos autorités, ils font quoi?
Merci.
Il faut qu'ils aident le président.
Merci. Nous transférons intégralement les préoccupations des auditeurs acquis de droit aux autorités. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Je salue tout le plateau.
Oui, c'est monsieur?
C'est Joseph.
Joseph.
Joseph Kounyegbe.
Ah, Kounyegbe.
Oui.
Plutôt Joseph Agbenyegbe. Allez-y.
Oui, je voulais intervenir par rapport à cette histoire d'identification de mon numéro.
Oui.
Et pour dire, mais on ne comprend plus rien. Oui, l'identification est faite, c'est dans quel souci? C'est pour pallier à quoi? Je voulais par là interpeller le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Mais si aujourd'hui des gens peuvent encore nous appeler par des numéros, et que si nous intervenons parce que nous sommes anarqués, c'est parce que nous sommes volés d'une manière ou d'une autre, et qu'on nous renvoie nous-mêmes à aller chercher les personnes, je crois que le ministère, vraiment, où se trouve? Où se trouve cette protection civile en ce moment?
Oui.
Donc je crois que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est interpellé.
Oui.
Et l'ARCEP aussi est interpellé dans ce sens-là.
L'ARCEP maintenant.
L'ARCEP aujourd'hui.
Oui.
Donc est interpellé en ce sens-là.
Oui, vivement.
Je pense que les deux opérateurs économiques des mobiles, je crois, ils peuvent couper tout court ces genres de numéros.
Mm-hmm.
Et pourquoi aujourd'hui les gens ont encore des numéros non identifiés pour qu'on se retrouve dans ce genre de situation?
Oui.
Vraiment, le ministère est interpellé pour.
Vraiment, pour vivement. Comment est-ce que les opérateurs ne sont pas arrivés à désactiver ces numéros non identifiés par lesquels les gens nous arnaquent? Ces interpellations vont surtout à la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. C'est elle qui porte ce projet au nom du gouvernement. Elle doit nous rassurer. Je rappelle que il y a deux choses qui marchent dans un pays. Nous, les citoyens, nous sommes dans notre droit de demander des comptes. Et les autorités ont l'obligation de nous rendre compte de leur gestion. Cette affaire d'arnaque par des numéros inconnus, cela pose le problème même de la sécurité de tout le pays. Eh bien, chers confrères, vous avez écouté les auditeurs. Ils n'y sont pas allés du dos de la cuillère. Un tour en une minute pour vos commentaires de fin d'émission. Une minute, Didier.
Oui, moi, j'ai apprécié que les auditeurs, vous savez, la dame qui a appelé, même si elle n'a pas donné son nom, elle a dû résumer le sens même de ce que nous disons ici en interpellant les autorités par rapport aux routes, par rapport à l'électricité, l'éclairage public, le visage même. Elle a dit de ne pas dire une des grandes villes du Togo, mais la capitale togolaise. Là, vraiment, Lomé, c'est la capitale. Et ça doit être la vitrine du pays. Et je ne vais pas aller dans le sens où elle pose les questions pour se demander si nos autorités voient un peu quand elles sortent du pays pour voir les autres. Mais ici, c'est notre capitale. Et donc, il faut forcément que quelque chose soit fait pour la capitale. C'est dans ce sens que nous les interpellons pour les routes, pour l'éclairage public et pour d'autres travaux. Hein. On a Luriel parlé de l'eau ici, pour l'eau, pour l'électricité, mais on ne peut pas arriver dans la capitale en train de retrouver encore les toiles d'araignée un peu partout. C'est vilain pour une capitale comme la capitale du Togo après 63 ans, c'est ça?
De quoi?
Bientôt 64 ans de notre supposée indépendance. Donc c'est pas bien pour nous. Il va falloir qu'on trouve un mécanisme pour changer carrément le visage de la
capitale. Merci. Uriel Kakwala.
Alors, mis à part la dame qui a parlé de la capitale, qu'elle ne confond pas du tout avec une grande ville du pays, il y a un autre aussi qui est intervenu qui disait qu'il fallait qu'on développe sérieusement les infrastructures routières de la capitale. Je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui pensent qu'il faut développer les infrastructures routières de la capitale. Si aujourd'hui l'autorité me dit « oui, telle route de la capitale est en mauvais état parce que nous avons déployé les fonds qui devraient servir à l'entretenir », pour ouvrir une piste à Boufalé, pour ouvrir une piste dans Pendjal, je comprendrais. Parce que là, je ne suis pas à 100% d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut donner une image particulière à la capitale. Nos pays sont des pays particuliers. L'intérieur du pays, c'est le pays. Et les peines que les citoyens subissent, elles sont plus majeures à l'intérieur du pays. Vous allez à l'intérieur, c'est autre chose. Si une route peut attendre, son entretien peut attendre à Lomé, je suis d'accord pour qu'on ouvre une autre à l'intérieur, permettre aux mêmes citoyens du même pays, qui s'appelle le Togo, de vaquer librement à leurs occupations. C'est encore bien.
Tu as raison. Pas,
parce que là, moi je viens de l'intérieur du pays, je sais ce qu'il y a là-bas.
Non, tu as raison, c'est l'intérieur qui nourrit la capitale. Et si je vis aujourd'hui dans la capitale, je suis né dans le village que je n'oublie pas. Arrive Niaou.
Non, bon, moi je voulais dire d'abord à Didier, mon ami Didier de tous les jours.
Ton cher ami Didier.
Mon cher ami, que il faut pas qu'il pense que si le chef de l'État a reçu le président nigérien, c'est parce que le chef de l'État ou le Togo encourage les coups d'État. Non, on n'a jamais vu quand ça s'est passé au Mali, quand ça s'est passé au Burkina, quand ça s'est passé en Guinée et récemment au Niger, on n'a jamais vu la main du Togo derrière. Mais ce n'est pas une raison que quand les gens en arrivent à ces coups, qu'on dise que bon, c'est la brimade totale, on ne veut plus les sentir et qu'on essaye de faire saigner les populations. Vous savez que quand ça s'était passé au Mali, le chef de l'État était le tout premier à dire que les sanctions ne feraient rien au sommet, mais que les sanctions porteraient un préjudice plus à l'ensemble de la population, donc la majorité du Mali. C'est dans cette logique que le président togolais ou le Togo se comporte de la manière. Maintenant,
oui.
Par rapport.
Et tu vas chuter?
Pour chuter.
Oui.
Pour les routes, je crois que ce que Iriel a dit, c'est aussi vrai que à prendre avec pincette, parce que dans les pays où nous allons, oui, nous n'allons pas dans les tréfonds de ces pays. Tous les pays, je connais bien le Cameroun. Je connais plusieurs pays, je ne peux pas citer ici. Mais je vais seulement à la capitale. Et ça me donne de porter une analyse sur l'ensemble de ce pays pour dire que à tel pays est développé. Toi-même, tu étais, je ne sais pas si c'était à Harare ou dans quel pays tu étais récemment. Quand tu es revenu, tu dis c'est l'Europe, que c'était bien conçu.
Oui,
mais est-ce que tu as été?
Oui, sauf que
nous voulons qu'on construise l'intérieur.
Nous voulons un développement intégral.
Oui,
que le Togolais se sente.
Nous le disons tous les jours.
Si nous préférons seulement la capitale, nous risquons d'accentuer l'exode rural.
On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. On veut
centraliser le développement.
On veut ça. Mais qu'on fasse quelque chose dans la capitale.
Merci. On va terminer par Jacques.
Non, je crois que ça. Moi, je voulais me porter volontiers par rapport à notre pays, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, il faudrait que on puisse développer nos villes. Développer nos villes. C'est vrai que ça nécessite des fonds, mais une petite ingéniosité de la part effectivement des uns et des autres, nous allons le faire ça. Et si les gens le veulent, nous allons les aider. Mm-hmm. Parce qu'il faut reconnaître que ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement à Lomé, on parle également de l'intérieur du pays.
Oui.
Vous m'avez répondu que vous avez fait un tour à ce côté, vous avez vu.
Oui.
Pas seulement à Lomé. Il y a des choses. Vous savez, si aujourd'hui l'État veut, l'État peut. L'État veut, l'État peut. Et puis, l'État doit vouloir. Et l'État doit également le faire. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres, les bonnes volontés s'associent pour que nous puissions développer notre pays.
Merci. La semaine est lancée. Je vous remercie, vous, ici au studio, les techniciens, mais aussi et surtout les auditeurs qui co-animent avec nous. Ensemble, nous irons de l'avant si la volonté y est. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut. Et prions que Dieu le veuille.